Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour, bonjour, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour notre étude dans le livre de 2 Samuel. On approche de la fin du livre, on est à présent au chapitre 22. On va lire un très très beau cantique de David, un cantique de délivrance, cantique vraiment magnifique. On va le lire ensemble, 2 Samuel 22. Alors, je suis dans une version second 21. David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. » Oui, les flots de la mort m'avaient enserré, et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, et les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai appelé mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Les fondements du ciel ont vacillé. Ils ont été ébranlés parce qu'il était irrité. Une fumée s'élevait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel, et il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il apparaissait monté sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. C'était un amas d'eau de sombres nuages. Une lumière éclatante le précédait, d'où provenait tout brûlant des charbons de feu. L'Éternel a tonné du haut du ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voix. Il a lancé des flèches et dispersé mes ennemis. Il a lancé des éclairs et les a mis en déroute. Le fond de la mer est apparu, les fondements du monde ont été découverts, à la menace de l'Éternel, au souffle de ses narines. Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux. Il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a récompensé de ma justice, il m'a traité conformément à la pureté de mes mains. Car j'ai suivi les voies de l'Éternel, et je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Toutes ses règles ont été devant moi, et je ne me suis pas écarté de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon péché. Alors l'Éternel m'a traité conformément à ma justice, à la pureté qu'il a vue en moi. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Avec celui qui est pur, tu te montres pur, et avec l'homme faux, tu te montres habile. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses ton regard sur les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière éternelle. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe toute armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont droites, la parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Qui est Dieu en dehors de l'Éternel, et qui était un rocher sinon notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse, et qui me conduit dans une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches, et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc en bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas. Je poursuis mes ennemis et je les détruis, je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les frappe, je les brise, et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me donnes de la force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi, et je réduis au silence ceux qui me détestent. Ils regardent autour d'eux, et personne pour les sauver. Ils craignent l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les réduis en miettes, je les rends pareils à la poussière de la terre. Je les écrase, je les piétine comme la boue des rues. Tu me délivres des révoltes de mon peuple, tu me gardes à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est soumis. Les étrangers me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Les étrangers perdent courage, ils sortent en tremblant de leur forteresse. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher. Que l'on dise la grandeur de Dieu, le rocher de mon salut. C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'a servi des peuples, qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde grande délivrance à son roi, Il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance, pour toujours. Magnifique, les amis, n'est-ce pas? Magnifique. David était tellement talentueux, ses psaumes sont tellement beaux à lire. Alors, on va détailler tout ce cantique, justement. On va s'arrêter un petit peu sur le contexte et puis également sur le message hein, qu'il y a au fond de ce texte magnifique. Alors, le roi David, donc, est un merveilleux psalmiste, hein, merveilleux parolier, merveilleux musicien aussi. Alors, pour le côté un peu statistique, hein, à lui seul, David, il a rédigé la moitié des 150 psaumes. Voilà, il y a 150 psaumes dans le livre des psaumes, la moitié, c'est David qui les a écrits. Alors, le tout premier psaume qu'il lui a attribué, c'est le psaume 3. Voilà. Il l'a écrit lorsqu'il fuyait son fils Absalom. Alors, c'est un passage hein, qui est un texte qui nous parle, hein, on l'a vu il y a quelques semaines. Alors, donc, si on prend les 150 psaumes, il y en a 73 où il est mentionné comme auteur. Alors, le tout premier, c'est le psaume 3, hein, donc la fuite devant Absalom. Donc, ensuite, il y a le 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc les psaumes 3 à 9 déjà. Puis les psaumes 11 à 32, 34 à 41, 51 à 65, 68 à 70, et ensuite les psaumes 86, 101, 103, 108 à 110, 122, 124, 131, 133, et ensuite 138 à 145. Donc là déjà, sur 150 psaumes, il y en a 73 où il est mentionné que c'est lui qui les avait rédigés. Mais le Nouveau Testament le nomme aussi comme auteur de deux autres psaumes. Alors, c'est le psaume 2, voilà, et là c'est acte 85 qui en parle. Regardez avec moi. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Alors ça c'est le psaume 2, verset 1. Et donc acte 85, tu dis, voilà, c'est toi qui as dit par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Donc acte 4 indique que c'est David qui écrit le deuxième psaume. Et ensuite, un deuxième psaume qui est attribué à David dans le Nouveau Testament, c'est le psaume 95. Alors là, c'est l'auteur du livre aux Hébreux qui dit dans Hébreux 4, 7, c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David, cette parole déjà citée, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et ça, c'est un extrait du psaume 95, c'est les versets 7 à 8. Donc, 73 psaumes qui sont vraiment clairement identifiés comme, avec David comme auteur. Et puis ensuite, le Nouveau Testament qui nous éclaire en disant, voilà, le psaume 2, c'est aussi lui qui l'a écrit. Ça, c'est acte 4, 25 qui l'indique. Et le psaume 95 également. Et ça, c'est Hébreux 4, 7 qui en parle. Voilà. Alors, c'est pour voir un peu mieux la relation entre David et les psaumes. Et j'ai trouvé ces informations vraiment pertinentes d'un super site qui s'appelle godquestions.org. Vous le connaissez certainement. Gotquestions.org est très très belle ressource. Ils ont fait un très bel article. Combien de psaumes David a-t-il écrit? Et c'est justement la source hein, pour cette partie que je viens de vous donner. Alors, à quel moment David a rédigé ce cantique? Alors déjà, on le trouve dans le livre des psaumes. C'est quasiment le psaume 18. Hein, c'est quasiment un copier-coller, mais il y a quelques petites différences, mais plus sur la forme que sur le fond. Donc déjà, on le trouve dans le recueil des psaumes. Mais on n'a pas non plus d'indication à quel moment... David a entrepris sa rédaction. Alors, déjà, ce qu'on voit, c'est que c'est un hymne de reconnaissance qui englobe plusieurs aspects de sa vie. À la fois, ce psaume revient sur les grandes délivrances hein, dont il était l'objet par le passé, comme le verset 1, par exemple, ou le verset 41. Si on les relit, voilà, on voit que David dit qu'il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Donc là, on voit qu'il a une certaine période de sa vie. Verset 41, par exemple, c'est... Tu mets mes ennemis en fuite devant moi, je réduis au silence ceux qui me détestent. Donc, à la fois, il y a un regard sur sa vie, hein, son passé, et puis en même temps, à travers ce psaume, il regarde aussi le futur, hein, avec les bénédictions dont lui et sa maison seront assurées à jamais. Et là, c'est la fin du psaume quand on lit verset 51. Il accorde de grandes délivrances à son roi, il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance pour toujours. Donc ce cantique, c'est une façon à la fois de regarder derrière et de regarder devant. Alors ça reste difficile donc d'affirmer avec précision à quel moment David a rédigé ce cantique. On a un petit peu des marqueurs de temps, mais le texte n'indique pas clairement. Hein. Mais malgré tout, hein, quand même, verset premier, on vient de le lire, le verset indique « David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül ». Alors, Donc, on doit pouvoir situer globalement sa rédaction à la suite du transport de l'arche à Jérusalem. C'est là quand David a commencé à être dans la paix, dans le repos, et donc il décide en même temps de construire un temple pour Dieu à Jérusalem. Donc là, on serait dans 2 Samuel chapitre 7. Regardez avec moi le verset 1 à 2, donc dans 2 Samuel 7. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Voilà, donc 2 Samuel 7, verset 1, rappelle un peu 2 Samuel 22, verset 1. Voilà, l'Éternel lui a donné du repos, et maintenant David est délivré de tous ses ennemis. Et ça le positionne plutôt bien dans la vie de David, ce cantique, parce que sa rédaction, normalement, elle est antérieure à son adultère et au meurtre d'Uri le Hittite. Sinon, il y a des passages de ce cantique qui seraient difficiles d'attribuer à David, quoi. Par exemple, les versets 21-25. L'Éternel m'a récompensé de ma justice. Il m'a traité conformément à la pureté de mes mains, car j'ai suivi les voies de l'Éternel et je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Toutes ses règles ont été devant moi et je ne me suis pas écarté de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui et je me suis tenu en garde contre mon péché. Alors l'Éternel m'a traité conformément à ma justice, à la pureté qu'il a vue chez moi. Alors donc, positionner la rédaction de ce psaume à ce moment-là au niveau de Samuel 7 semble vraiment cohérent, parce que sinon, évidemment, les fautes de David ensuite l'empêcheraient de rédiger ce genre de verset. Et David a fait vraiment d'autres psaumes ensuite où il s'est repenti, notamment le psaume 51, on voit que la tonalité elle est vraiment différente, quoi. Alors donc, un très beau verset, rédigé par David à un certain moment de sa vie. Il regarde le passé, il regarde le futur, il fait un bilan, maintenant qu'il a une page de sa vie se tourne, visiblement. Alors il est très beau ce cantique, il est vraiment magnifique. David était un très très beau psalmiste. Mais néanmoins, les amis, ce cantique, il a une double lecture. À la fois, c'est un chant de louange, parce qu'il concerne certains événements liés à la vie du roi David, mais c'est aussi et surtout, les amis, un texte prophétique. Parce que ce texte contient 7 parties qui trouvent leur plein accomplissement en Jésus-Christ. Quand on le relit et qu'on le regarde avec les lunettes du Nouveau Testament de la vie de Jésus-Christ, on le voit différemment. Alors on va regarder les 7 parties qui font que ce psaume s'accomplit pleinement en Jésus. Déjà versets 5 à 6. Alors là on voit Jésus qui est entouré par les ténèbres de la mort. Regardez ces versets. Oui, les flots de la mort m'avaient enserré, et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Alors ici, on a sans doute Jésus, l'image de Jésus sur la croix, ou Jésus dans la tombe, peut-être. En tout cas, ici, le personnage de ce psaume, de ce cantique, est entouré par les ténèbres de la mort. Alors donc, ça se prête bien à Jésus aussi. Alors ensuite, versets 21-25, là, on voit Jésus récompensé par Dieu parce qu'il s'est montré exempt de tout péché. Et là, donc, c'est difficile de les appliquer à David, même avant sa chute, parce que David était aussi un pécheur, comme nous. Regardez ce que dit le texte. « L'Éternel m'a récompensé de ma justice. Il m'a traité conformément à la pureté de mes mains, car j'ai suivi les voies de l'Éternel et je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Toutes ses règles ont été devant moi, et je ne me suis pas écarté de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon péché. Alors l'Éternel m'a traité conformément à ma justice, à la pureté qu'il a vue chez moi. » Bon, la pureté qu'il a vue chez David, oui, David était pur, mais pécheur sans doute, même avant l'adultère avec Bathsheba. Donc ce texte s'applique tellement bien ici au Seigneur Jésus qui, lui, n'a commis aucune faute. Versets 44 à 45. À présent, ce passage montre la seigneurie de Christ sur toutes les nations. Et plusieurs passages qu'on va voir ensuite vont renforcer cette idée-là. Regardez avec moi. « Tu me délivres des révoltes de mon peuple, tu me gardes à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est soumis. » Les étrangers me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Alors déjà, son peuple s'est révolté contre lui, ses frères juifs se sont opposés à Jésus, ils l'ont crucifié. Ensuite, on voit que ce personnage, il est à la tête des nations. Alors, David, il n'est pas vraiment à la tête des nations, il régnait surtout sur Israël. Alors c'est vrai qu'il y avait certains peuples alentours qui étaient sous sa domination, mais il régnait surtout sur Israël. Là, on voit que le personnage est à la tête des nations. Donc ça va bien plus loin que le simple périmètre d'Israël. D'autant qu'il y a des étrangers qui lui sont soumis, nous dit le texte ici. Des étrangers qui le flattent et qui lui obéissent au premier ordre. Ben, les amis, ce sont les chrétiens ici. Chrétiens, ce sont des étrangers, ils n'étaient pas juifs. Et nous lui obéissons au premier ordre. Et qui plus est, dans la fin des temps, toutes les nations plieront le genou devant lui. Donc là encore, ce texte se confirmera, aura son plein accomplissement en Jésus-Christ. Regarde avec moi Romains 14, verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Alors, verset 47 ensuite, on a ici le quatrième passage hein, qui peut se référer à Jésus. Et ce passage parle d'un rocher, le rocher du salut. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, que l'on dise la grandeur de Dieu, le rocher de mon salut. Alors Jésus aussi, c'est une pierre, c'est un rocher, hein, une pierre angulaire, celle sur laquelle repose le salut de Dieu, hein, le plan de Dieu, et le salut de Dieu repose sur cette pierre, hein, sur ce rocher. Regardez 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 8. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Alors les amis, question essentielle, avez-vous fait de cette pierre de Jésus le rocher de votre salut? Est-ce que Jésus est pour vous une pierre d'achoppement ou est-ce que c'est le rocher de votre salut, là où vous trouvez la grâce de Dieu et le pardon pour vos péchés? Qu'est Jésus pour vous les amis? La question importante à laquelle il faut répondre. Passage suivant à présent, versets 48 à 49. Là encore, le texte mentionne que Jésus recevra la domination sur les peuples. Regardez, c'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'a servi des peuples, qui me fait échapper à mes ennemis. Alors il n'est pas ici dit, c'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'a servi mon peuple. Hein. C'est ici, c'est les peuples. Et c'est difficile donc de le rattacher au roi David, hein, qui était surtout roi sur Israël. Hein. Ici, donc, ce sont les peuples qui lui sont asservis, donc la notion de peuple au pluriel semble avoir une portée plus large qu'Israël. Hein. Et donc, ça s'applique pleinement au Messie, qui, lui, régnera hein, sur tous les peuples. Alors, verset 50, voilà, bah, la louange de cet homme, justement, ne va pas s'arrêter non plus aux frontières d'Israël. Sa domination ne s'arrête pas aux frontières d'Israël, et sa louange non plus. Regardez, verset 50, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Voilà encore un verset qui s'applique pleinement à Jésus, hein. Nous sommes les représentants de ces nations, hein, français, africains, sud-américains, européens, américains, asiatiques, voilà, océaniens. Nous sommes tous finalement ces nations hein, dont le texte parle ici. Quand nous sommes chrétiens et que nous venons d'un pays qui n'est pas Israël, eh bien nous représentons les nations sur lesquelles Jésus domine à présent. Et alors on va finir avec le verset 51, c'est sans doute le passage le plus clair et le plus prophétique ici. On va voir que là, c'est vraiment le Seigneur là qui est décrit hein, dans ce passage. Regardez, verset 51. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance, pour toujours. Alors la bénédiction était promise à David pour toujours, mais la royauté sur Israël, de la part de sa famille, s'est arrêtée il y a plusieurs siècles, hein, parce que sa descendance n'est pas restée fidèle à Dieu. Et aujourd'hui, en Israël, il y a des gouvernements, il y a un président, il y a des ministres, mais il n'y a plus de roi. Ce n'est pas la descendance de David. Alors donc, cette bénédiction promise à David pour toujours, ben, finalement, si on regarde juste sur l'aspect royauté, ben, ça s'est interrompu, finalement. Mais cette promesse s'est accomplie d'une façon spirituelle cette fois. Hein. Et comment? Eh bien, c'est à travers la naissance, la vie, la mort, mais aussi la résurrection et le règne à venir de Jésus. Jésus qui est le descendant de David, le fils de David, le lion de la tribu de Juda. Et le fils de David va régner sur toute l'humanité. Il règne déjà aujourd'hui, mais il va vraiment régner concrètement dans la suite de l'histoire. Alors, les amis, c'est pour ça qu'on peut affirmer sans trop de crainte que le cantique rédigé par David dans 2 Samuel 22 est clairement prophétique. Hein, clairement prophétique. Et Dieu ne l'avait pas caché. Hein, il avait dit à David que le Messie serait issu de sa descendance. Notamment lorsque David avait exprimé sa volonté de bâtir un temple pour Dieu à Jérusalem. Regardez avec moi, on va finir avec ce passage. 2 Samuel 7, versets 11 à 16. Dieu dit à David, « Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Alors ces promesses semblent aller vers Salomon, hein, mais Salomon n'a pas réussi à conserver sa fidélité à Dieu. Salomon s'est égaré vers la fin de sa vie. Mais heureusement, les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, car Dieu est fidèle, et elle parlait en fait de Jésus, hein. On voit ici clairement le Messie dans ce texte. Alors que Dieu en soit béni éternellement, les amis, que Dieu en soit béni par Jésus-Christ, son Fils, lui qui nous a réconciliés avec Dieu par sa mort sur la croix à Golgotha. Amen, les amis. Amen. Alors, le livre de 2 Samuel se termine sur les dernières paroles de David. On va voir ces paroles la semaine prochaine. Et le texte ne va pas omettre toutefois de citer aussi tous les hommes qui ont été fidèles à David durant sa vie. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. J'ai hâte de vous retrouver, les amis, pour cette étude. En attendant, méditons bien sur toutes ces paroles qu'on a entendues aujourd'hui. Et surtout, surtout, les amis, si vous n'avez pas encore répondu à cette question fondamentale, répondez-y maintenant. Avez-vous fait de cette pierre Jésus-Christ le rocher de votre salut? Que le Seigneur vous guide. À très vite.